L'invité de Denise Dumollin avec les œuvres pontificales missionnaires à la découverte des témoins de la mission d'aujourd'hui.
L'invité de Denise Dumollin. Mon invité, Joseph Davidovits, je l'avais déjà reçu il y a, je pense, au moins deux ans pour livre précédent. Et aujourd'hui, c'est le tome 2, La Bible avait raison sur les traces de Moïse et de l'Exode. C'est paru, comme le précédent, chez Jean-Cyril Godefroy. Et ce qui est très original dans votre démarche, on va le voir dans quelques instants, mais c'est que vous êtes à la fois un spécialiste de la pierre, puisque vous travaillez, vous dirigez cet institut de géopolymère de Saint-Quentin dans l'Aisne, d'où vous êtes venu aujourd'hui, avec l'un de vos fils, puisque Ralph, c'est lui qui a fait les illustrations, et puis celui qui était venu, qui vous avait accompagné la dernière fois, c'était Frédéric, qui lui est spécialiste de langues anciennes et des civilisations méditerranéennes, et qui est en train de peaufiner, si j'ai bien compris, sa thèse. Alors, l'originalité de votre travail, c'est que vous apportez un regard à la fois très neuf et, je dirais, très éclairant et très satisfaisant sur tout ce qui touche aux techniques non seulement de la construction mais de la pierre. Et quand on nous dit que ce n'est pas des il y a certaines expressions qui sont employées dans la Bible, je pense justement à Moïse tout spécialement, mais il y a des termes que l'on n'a pas relevés en fait sur
jusqu'à présent, on ne les a pas relevés car les pierres, on ne les comprenait pas. Ce sont des termes techniques, et donc la langue hébreu est extrêmement précise.
Oui.
Et un terme technique dont on ne connaît plus la signification sera traduit dans un contexte qui sera, là on le verra, totalement différent de la réalité. Et c'est pour ça que j'ai intitulé mes livres « La Bible avait raison » et non pas « La Bible a raison ». C'est parce que j'ai constaté que le texte original, le texte en hébreu, écrivait, donnait des informations qui sont extrêmement précises, mais que ce sont les interprétations qui sont fausses. Et donc, lorsque l'on retourne au texte original, avec les nouvelles connaissances que nous apportons depuis 30 ans, nous comprenons les éléments techniques. Par exemple, vous parliez de Moïse.
Oui.
Lorsque le 11e commandement, après le décalogue, les 10 commandements, Moïse écrit ou dicte « Si tu me construis un autel en pierre, tu ne le feras pas en pierre taillée.
» Pour nous, tout est là sur ce mot,
pour
en
nous,
fait.
Cela veut dire tout à fait autre chose que ce qui est admis jusqu'à présent. Puisqu'il n'est pas en pierre taillée, il va être fait en pierre brute. On va faire un tas de pierres, mais c'est faux. S'il n'est pas en pierre taillée, c'est qu'il est en pierre agglomérée. Et là, c'est quelque chose d'extrêmement surprenant. Pour nous, ce n'est pas surprenant car nous sommes spécialisés dans la reconstitution des pierres. C'est une technologie que nous avons découverte et qui est prouvée comme ayant été utilisée en Égypte et dans d'autres contrées du Moyen-Orient. Et donc, lorsque l'on a cette information qui est extrêmement précise, et que d'autre part, ça il faut bien le savoir, il faut savoir que dans la civilisation égyptienne, dont la Bible dérive, la pierre avait une signification religieuse. Il était interdit de construire des maisons, des palais, des garnisons avec de la pierre. La pierre n'a qu'un usage à vocation religieuse pour les temples et les tombeaux. Donc, en fait, et cet interdit ne sera levé que plus tard, lors de la conquête d'Alexandre le Grand, les Ptolémées. À partir de là, on pourra construire tout ce que l'on veut en pierre. Et cette vocation religieuse aura disparu. Et puis en plus, lorsque l'on constate qu'en Égypte, il y a deux genèses. Et là, on va se retrouver dans un système qui est ahurissant. On constate qu'il y a deux genèses de création de l'homme. Le plus ancien, qui est le dieu Khnoum, c'est un dieu avec visage de bélier, aux cornes horizontales, qui pétrit le corps de l'homme et le corps des dieux à partir de l'argile. Vous me direz, c'est la Genèse. Oui, mais là, cette Genèse, on la retrouve en Égypte en 3002. Les premiers écrits concernant Khnoum datent 3002 avant Jésus-Christ. Donc on a là un système qui est basé sur l'agglomération de l'homme à partir des minéraux. Et lorsque l'on fait une pierre agglomérée, on refait la création. Et puis de l'autre côté, on constate qu'il y a une deuxième genèse qui est celle qui est mise en pratique un peu plus tard par le dieu Amon, dans lequel le dieu Amon, au moment de la création, est devenu une montagne et il se taille dans son corps le corps des hommes et le corps des dieux. C'est-à-dire que la création de l'humanité, selon le dieu Amon, est la pierre taillée. Nous avons une confrontation entre deux systèmes. L'agglomération, c'est-à-dire la Genèse, telle qu'on la conçoit, la Genèse biblique, qui est la pierre agglomérée, et la Genèse de l'Égypte du temps du dieu Amon, qui est la pierre taillée. Tout ceci a des vocations religieuses. Donc, lorsque Moïse écrit « Si tu ne me fais pas un autel en pierre taillée », cela veut dire « Tu dois le faire en pierre agglomérée ». Et à partir de là, nous allons retrouver toutes les descriptions concernant l'autel. L'autel est décrit. L'autel est décrit. Il y a un moule pour faire l'autel. On trouve une grille. L'autel est décrit. Et pire que cela, puisque c'est la loi de Moïse, le vecteur principal de la religion, la construction du temple de Jérusalem, doit suivre la loi de Moïse. On sait très bien qu'il y a un verset qui dit « On n'entendait pas le bruit des outils, le bruit pendant que l'on construisait le temple. » Ben c'est parce que on suit la loi de Moïse et que le temple de Jérusalem a été construit en pierre agglomérée. Et le sachant, on retrouve dans le texte en hébreu exactement la signification du mot original. Le terme hébreu pour désigner les pierres dont sont été faites le temple de Jérusalem est abonim ikouros ou abonim ikourot. Abonim, ça veut dire les pierres, et ikouros ou ikourot, ça veut dire transformer en durcir. Le lait, lorsqu'il caille, devient dur, c'est ikourosh. Gelé, c'est-à-dire transformer de l'eau en quelque chose de dur, c'est ikourots. Donc on a les pierres qui étaient liquides et qui sont devenues dures. C'est exactement cette utilisation du principe fondamental de la réalisation de ces pierres par agglomération, car c'est un rite religieux que l'on doit suivre. Et donc on est entièrement rattaché à l'Égypte. On est entièrement rattaché à un des fondamentaux de la religion égyptienne, ce qui prouve déjà, rien que par cela, que la Bible a son origine au point de vue des institutions en Égypte, et non pas, comme on veut nous faire croire maintenant, étant une génération spontanée de pauvres paysans et nomades qui, aux alentours du XIIe siècle, se sont comme cela auto-générés et ont, au fur et à mesure, découvert et institué cette nouvelle religion. Il y a donc obligatoirement un transfert de quelque chose qui vient d'Égypte. Maintenant, il faut le prouver. Et nous l'avons prouvé.
Mais j'allais dire, c'est toute votre vie, Joseph Davidovits, parce que chez vous, ce qui est assez fascinant, c'est à la fois la passion, et puis en même temps, que vous avez transmis à vos fils, ce qui est pas rien, parce que c'est pas toujours commun, ça, mais en même temps, il y a vous êtes probablement l'un de ceux qui connaissent à la fois le mieux l'Égypte et le monde hébreu. Et c'est pas du tout évident de faire cette jonction-là.
Je suis multidisciplinaire depuis toujours. Là, évidemment, c'est le fruit d'un travail extrêmement important depuis
Mais la pierre, vous êtes dedans, je veux dire, à longueur de journée, oui.
Cela fait 30 ans que nous sommes dans cette...
Quel a été le déclic pour vous, justement, pour cet institut géopolymère?
Le déclic a été en 1972. Je voulais réaliser des matériaux qui ne brûlent pas, des matériaux qui soient conformes à ce que l'on entend de l'environnement. Le développement durable, ça fait 30 ans que je le pratique. Et donc, il a fallu refaire toute une série de matériaux qui n'étaient plus basés sur l'usage du pétrole. L'usage, c'est la chimie organique, c'est les plastiques. Tous ceux-ci sont à bannir car ils sont dangereux.
Et puis onéreux aujourd'hui. Hein.
Oui, et donc, nous avons démarré, j'ai démarré toute une nouvelle science, qui est une science de géochimie. Je suis extrêmement connu dans le monde pour avoir mis en place cette nouvelle technologie qui est la chimie des géopolymères, où nous reconstituons des roches. Nous savons refaire des roches. Alors, lorsque nous abordons un site archéologique et que nous soupçonnons que peut-être il a été fait selon cette méthode, nous sommes capables de le regarder. Et c'est une information qui est à la base, maintenant dans le monde, une cinquantaine de laboratoires travaillent avec nous. Nous avons eu un congrès mondial en 2005. Là-dessus, je reçois constamment des visiteurs. Il n'est pas une semaine sans que nous ayons des rapports avec des laboratoires étrangers. Nous avons mis en branle un système très écologique, correspondant à ce que les pays en voie de développement attendent de la technologie moderne. Cela correspond dégagement de CO2, effet de serre, stockage des déchets, et puis maintenant énergie qui flambe. Tout ceci, nous en avons la réponse. Et puis, grâce à cette technologie, moi, je me suis battu parce que je savais que j'avais eu dans l'Antiquité, j'ai redécouvert énormément de choses, mais j'étais confiant de n'avoir pas été le premier.
Mais c'est ça qui est fascinant en même temps,
il y avait des gens il y a 3000 ans qui l'avaient fait.
C'est incroyable.
Et nous
quand
les
même.
Retrouvons. Et nous retrouvons leurs traces. Nous avons trouvé le plus grand savant de l'Antiquité égyptienne. Et chose extraordinaire, ce plus grand savant de l'Antiquité égyptienne est justement le patriarche Joseph de la Bible.
Et voilà.
Alors
tout
là,
ça vous enchante.
C'est quelque chose. Et surtout que nous avons les preuves archéologiques. Nous avons les preuves. L'égyptologie nous donne tout. Mais il a fallu énormément de chance parce que c'est une information.
Et de travail, non?
Oui, mais là, c'était la chance. Parce que c'est une information qui est occultée par l'égyptologie. Si vous le permettez, je vais vous donner l'information de base. Il y a deux grands savants de l'Antiquité égyptienne. Le premier est Imhotep, celui qui a construit la première pyramide. Pour nous, c'est très facile. Imhotep est celui qui a inventé la pierre agglomérée et il a construit la première pyramide. Et puis, il faut attendre 1300 ans plus tard, le second savant, le plus grand, qui est Amenophis, fils de Hapou, et qui vécut au temps des grands pharaons comme Amenhotep III, le père d'Akhenaton, le père du pharaon hérétique, celui qui a introduit pendant un très court temps le monothéisme. Et ce deuxième savant, Amenophis, fils de Hapou, a été honoré en Égypte pendant plus de 2000 ans. Il a été divinisé, il est devenu un dieu. Et chose extraordinaire, le pharaon Amenhotep III, lorsqu'il décède, Amenophis, fils de Hapou, à l'âge de 81 ans, auparavant, je vous signale que sur sa statue, lorsqu'il avait 80 ans, il y a une statue qui a été gravée à son honneur, et il écrit « J'ai 80 ans et j'atteindrai les 110 ans ». 110 ans, c'est l'âge que l'on a donné à Joseph. Donc, pharaon Amenhotep III honore son plus intime collaborateur, le numéro 2 de l'Égypte, le vice-roi de l'Égypte, le grand chancelier de l'Égypte qui était devenu ce grand savant Amenophis, fils de Hapou, en lui dédiant un temple funéraire à vocation royale. C'est la première fois et c'est la dernière fois que ça arrivera en Égypte. Ce temple funéraire dédié à Amenophis, fils de Hapou, les vestiges ont été retrouvés en 1935, il y a 70 ans, par deux égyptologues français, Alexandre Varille et Clément Robichon. Et ils ont eu la chance de découvrir une fresque. Et cette fresque est extraordinaire. car elle est, pour moi, la plus grande découverte archéologique du XXe siècle. Et elle a été complètement occultée par l'égyptologie.
On va y revenir, on va garder un peu de suspense après tout, Joseph Davidovits. Alors, je rappelle que le deuxième tome donc de la Bible avait raison. Après le premier qui était intitulé « L'archéologie révèle l'existence des Hébreux en Égypte », nous mène cette fois sur les traces de Moïse et de l'Exode. Chez Jean-Cyril Godefroy, on écoute La communauté de Thésée, c'est de la musique de Jacques Berthier, c'est le Ubi Caritas, et on se retrouve ensuite.
Radio Notre-Dame.
Invité Joseph Davidovits. Joseph Davidovits avec le second tome de La Bible avait raison et qui est intitulé Sur les traces de Moïse et de l'Exode. Je le disais tout à l'heure, ce qui est très étonnant chez vous, c'est d'abord cette connaissance. Vous êtes, enfin à ma connaissance, le seul à connaître aussi bien d'une part l'Égypte et de l'autre côté le monde hébraïque et plus cette histoire de la pierre qui est une histoire déjà ancienne pour vous de plus de 30 ans mais qui finalement nous donne des clés sur des éléments que l'on ne peut pas comprendre autrement parce que cette histoire de pierre agglomérée qui est quand même votre grande intuition mais, oui. mais basée sur des faits recherches et sur des faits il y a des tas d'éléments. On en avait parlé la dernière fois avec les pyramides. Il y a des tas d'éléments qui ne peuvent pas être compris sans si on passe à côté de cela.
Absolument, des tas d'éléments et on peut vous dans le livre, je n'y fais que de qu'une très peu d'allusions, mais toute la chrétienté est basée sur ce thème de la pierre. Bien sûr, ce n'est plus la pierre matérielle, ce n'est plus la pierre que l'on réagglomère à partir du minéral. Le dogme s'est transformé avec le temps en quelque chose de beaucoup plus spirituel. Et lorsque le Christ dit « Simon, tu seras pierre », cela a un symbole et cela découle de tout ce que nous avons découvert sur la Bible, sur la Genèse et sur l'Exode.
Alors, il y a un parallèle très étonnant, c'est une fresque d'un temple funéraire, le temple funéraire d'Aménophis, et ce qui est dit en parallèle sur Joseph dans la Genèse, on est au chapitre 41. Et là, c'est quand même très très extraordinaire de mettre ces deux textes en parallèle.
C'est quelque chose d'invraisemblable.
Ouais.
Premièrement, cette fresque a été découverte il y a 70 ans.
Seulement,
c'est-à-dire que tous les grands égyptologues la connaissent, ou devraient la connaître, et ne la connaissent pas. Cette fresque démontre l'honorification du plus grand savant de l'Égypte, qui est Aménophis, fils de Hapou. Et ma curiosité m'a fait que j'ai essayé de rapprocher les connaissances du patriarche Joseph avec celles de ce savant. Et je me suis aperçu que Joseph, lorsque on lui confie la tâche de faire en sorte pour que les récoltes soient bien emmagasinées, stockées, cela demande des connaissances en ingénierie, des connaissances en architecture, des connaissances en irrigation, des connaissances invraisemblables qui sont extrêmement larges et qui correspondent à celles d'Aménophis, fils de Hapou. Donc dans cette stèle, je me suis aperçu de la chose suivante. Vous avez Pharaon Amenhotep III qui honore son plus proche collaborateur, le numéro 1 de l'Égypte. Et voilà ce qu'il dit. Il l'honore et lui avec différents, il y a donc toute une cérémonie. Et puis je l'ai comparé avec la cérémonie de l'honorification de Joseph lorsque Pharaon l'installe numéro 2 de l'Égypte. Et je me suis aperçu que c'était semblable. Alors je vais vous indiquer. Donc, dans la Bible, Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te mets à la tête de tout le pays d'Égypte. » Et on continue. « Et Pharaon ôta son anneau d'or de sa main et le passa à celle de Joseph. » Dans la fresque funéraire en hiéroglyphe, on lit, « Pharaon... Et Aménophis, fils de Hapou, reçut des ornements en or et en toutes sortes de minerais précieux. Je reviens sur le texte de la Bible Genèse. Pharaon le fit habiller de lin de première qualité. Je passe sur la fresque en hiéroglyphe. Son corps fut habillé d'étoffes délicates et de lin de première qualité. Je reviens sur le texte de la Genèse Joseph. Et Pharaon suspendit le collier d'or à son cou. Je repasse sur la fresque, nous avons un collier en or et en toutes sortes de matières a été passé à son cou, c'est exactement la même. Et puis, or Joseph avait 30 ans lorsqu'il parut devant Pharaon, roi d'Égypte. Et qu'est-ce que l'on lit? Nous sommes en l'an 30, le grand scribe royal Aménophis s'est incliné devant sa majesté. Même la date concorde, simplement dans la Bible, Joseph a 30 ans, alors que sur la fresque, c'est Pharaon qui honore les 30 ans de service de son plus proche collaborateur. C'est un texte qui est repris mot pour mot dans la Bible. Pour moi, c'est le plus vieux texte trouvé qui... le texte le plus ancien copié mot pour mot dans la Bible. Il a plus de 3200 ans. Et ça, c'est quelque chose de scientifique, c'est quelque chose de prouvé, c'est la copie conforme. Lorsque l'on a écrit la Bible, on a copié ce texte. Et nous avons un détail encore bien plus important qui va prouver l'exactitude de ce raisonnement. C'est que ce texte contient un détail très surprenant.
Oui.
Je reviens sur la Bible. Après avoir honoré Joseph de cette façon, il lui dit, il lui donne un nom, Pharaon nomma Joseph, Tsaphenat Paneach, et lui donna pour femme Asenath, la fille de Potiphéra, le prêtre d'On. Joseph a donc un nom égyptien qui est Tsaphenat Paneach. Depuis des centaines d'années, on peut même dire des millénaires, on essaie de comprendre ce que veut dire ce nom, Tsafena Panear, qui, d'un point de vue littéraire, étymologique, ne veut absolument rien dire. On a donné des explications, mais cela ne veut rien dire, et donc jusqu'à maintenant, pratiquement dans toutes les Bibles, on conserve le nom Tsafena Panear. Moi, je suis un scientifique, je suis un curieux, j'ai pris le texte en hébreu, et je vois Tsafena Panear. Et puis je me dis, mais oui, c'est Tsafena Panear, quand je le lis en hébreu, c'est-à-dire quand je lis de droite à gauche. Mais moi, en latin, je lis de gauche à droite. Si je lis de gauche à droite, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai les consonnes, j'ai Hanapsenofts. Je vais m'amuser à mettre des voyelles, et j'arrive à Hanapusenofis, c'est-à-dire pratiquement Hanapu Amenophis. C'est pratiquement le nom d'Amenophis, fils de Hapu, écrit à l'envers. C'est-à-dire que pour moi, il y a concordance entre cette fresque qui honore Amenophis, fils de Hapu, et puis le texte de la Bible qui honore le patriarche Joseph, et puis il y a ce titre, Tsafena Panear, qui pour moi est écrit à l'envers. Or, le fait le plus curieux, c'est que dans la fresque en égyptien, le nom d'Amenophis est aussi écrit à l'envers. C'est quelque chose d'ahurissant.
Et pourquoi ?
C'est une preuve. Alors pourquoi ? D'abord, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire, on est dans un texte où les hiéroglyphes s'écrivent. C'est un texte en colonne verticale. On est dans une partie de texte qui se lit de droite à gauche en hiéroglyphes, de haut en bas et de bas en haut, de droite à gauche. Et donc on a ce texte dont je vous ai lu les différents chapitres, et le nom d'Amenophis est écrit de gauche à droite, à l'envers. Et ce nom, en fait, a été restauré. On voit qu'il a été restauré parce que la peinture sous-jacente est différente, elle est un peu plus sombre. Pourquoi ? Parce que Amenophis contient le nom d'Amon. Du temps d'Akhenaton, tout ce qui contenait le nom Amon a été effacé. Amenophis, fils de Hapu, a vécu avant Akhenaton. Il est mort environ 6 ans avant le règne d'Akhenaton. Il a donc connu Akhenaton. Il a été le précepteur d'Akhenaton. Et du temps d'Akhenaton, tous les noms de tous les rois, tous les textes qui contenaient Amon ont été effacés. Et là, on se trouve. Et ensuite, plus tard, il y a eu des restaurations. Et là, on se trouve sur un texte qui semble avoir été restauré, selon l'égyptologie, selon ceux qui ont découvert ce texte, autour de Ramsès III. Ramsès III, c'est après Ramsès II. Hein, nous sommes en 1190 avant Jésus-Christ déjà. L'Exode, il n'existe pas encore. De toute façon, sinon, on n'aurait pas trouvé ce texte. Donc, nous avons ce texte restauré, dont le nom est écrit à l'envers, c'est-à-dire qu'il y a une restauration qui a été faite, alors soit que ceux qui ont fait la restauration n'y connaissaient rien en hiéroglyphe, j'en doute, soit que ceux qui ont fait la restauration voulaient absolument montrer qu'ils étaient en désaccord avec le dieu Amon. Mais le nom d'Amenophis, le nom en Égypte étant quelque chose de sacré, on le donne, on l'écrit, mais on l'écrit à l'envers, si bien que les initiés savent très bien, aha, là c'est Amenophis, mais je ne dois pas le prononcer, parce que je ne dois pas prononcer le dieu Amon. C'est une réminiscence de la période d'Akhenaton, c'est pas la suite d'Akhenaton, point de vue religieux, c'est une réminiscence d'Akhenaton, c'est une réminiscence du fait qu'on ne doit pas prononcer le nom Amon. Il est donc écrit à l'envers, et ceci va se retrouver dans la Bible. Ce qui veut dire que ceux qui ont copié ce texte, dans lequel on a quelque chose d'unique, un nom écrit à l'envers, dont on pense, d'après l'égyptologie, que la restauration a été faite autour de 1150 avant Jésus-Christ. Donc ceux qui ont recopié ce texte pour le mettre dans la Bible, étaient encore en Égypte à cette époque. C'est-à-dire que s'il y a eu un exode, l'exode est venu après. Ce sont les implications qui sont assez intéressantes à partir de ce texte dont on a la preuve qu'il correspond au texte hiéroglyphe le plus ancien copié mot à mot dans la Bible.
La Bible. Alors, je voudrais qu'on revienne justement sur le titre générique. La Bible avait raison. Ça, non plus, c'est pas toujours dans l'ordre courant des choses. Aujourd'hui, ça fait tellement bien de dire que la Bible s'est trompée.
Ah oui, déconstruire, c'est extrêmement facile.
Ouais.
Et lorsqu'un scientifique vient et essaye de reconstruire, c'est pas normal. Un scientifique, en général, dans l'esprit du public, vient et démontre que tout ce qui a été fait avant est faux. Moi, je viens et je dis attention. La Bible avait raison. J'ai écrit exprès avait pour bien dire que le texte,
c'est important, le temps.
Le texte initial est correct, mais que ce sont les interprétations qui sont fausses. Par exemple, dans le texte de la Bible, il n'est jamais mention d'un exode du temps de Ramsès II. Ce que l'on a, c'est au temps des Ramsès. Or, il y a eu 11 Ramsès. Lequel ? Il se trouve que maintenant, je peux affirmer que l'exode a eu lieu après Ramsès XI. Et que l'on va retrouver tous les documents. C'est pas tout à fait pareil. C'est 100 ans avant l'arrivée de David à Jérusalem. C'est plus 300 ans. Tout change. Il y a Ramsès, mais c'est pas Ramsès II. Et dans la Bible, il n'a jamais été question de Ramsès II. C'est l'interprétation qui a été faite depuis 150 ans, 200 ans, et où, avec les petites bribes de recherche archéologique...
Et les uns suivent les autres.
On a été... Et tout le monde suit. Et tout le monde suit. Et donc, avait raison, nous retrouvons dans la Bible... Évidemment, il faut ensuite la nettoyer, enlever ce qui a été rajouté après. Je dis toujours, nous avons des faits historiques... Et autour de la veillée, pour raconter l'histoire, on a ajouté des histoires. Et donc, il faut enlever ce que l'on considère comme les histoires pour retrouver le fil conducteur. Et ce fil conducteur va nous donner quelque chose d'extrêmement précis. Donc, nous avons retrouvé le patriarche Joseph. Nous savons que c'est le plus grand savant de l'Égypte antique. Nous avons un personnage, nous avons une date. À partir de cette date, qui est la première historicité, on va découvrir Moïse et on va découvrir l'Exode. Mmh. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je développe dans ce livre.
Et il y a un point aussi qui est très très intéressant, c'est ce que vous dites sur Adam et Ève. On y reviendra tout à l'heure parce que ça c'est pas banal non plus.
C'est de la science là.
Voilà. Dans justement cet ouvrage, je pense que logiquement c'est un élément qui devrait être pris en compte aujourd'hui dans les textes d'analyse chez les biblistes.
C'est l'ouvrage que je viens de finir.
Oui.
J'espère qu'il sera pris en compte chez les biblistes. Premièrement.
En tout cas, je peux vous dire qu'il y en a qui s'y intéressent puissamment.
La redécouverte de cette fresque. Il est évident que les historiens bibliques, puisque l'égyptologie n'a pas fait son travail, ne pouvaient pas la connaître et ne pouvaient pas l'intégrer dans leurs recherches. Ça saute aux yeux qu'il y a une conformité entre les deux textes, entre le texte de la Genèse et le texte de cette fresque. Et donc, puisqu'elle a été occultée, et pourtant c'est publié, puisque nous l'avons trouvé. Donc, il y a eu des événements. On va pas revenir dessus, c'est trop long. Et donc, les informations qui viennent d'Égypte, en fait, ne passent plus vers les historiens bibliques.
Il y a comme une
barrière.
On a l'impression que c'est deux mondes qui ne se recoupent pas. Et là est le problème, au fond.
Et le problème, c'est que justement, lorsqu'un égyptologue, lorsqu'un patron égyptologue donne des conseils à ses doctorants, il leur dit surtout pas la Bible.
Mélangez pas.
Surtout pas. Vous allez vous faire massacrer. Surtout pas, ne mélangez pas.
Eh oui. On va écouter encore un peu de musique, Joseph Davidovits. Alors, je rappelle, deuxième tome donc de la Bible avait raison. On va revenir à Moïse, puisque c'est Moïse, sur les traces de Moïse et de l'Exode, chez bien sûr Jean-Cyril Godefroy, comme le tome 1. On écoute, c'est Michel Richard de Lalande, c'est le Tédéum par l'Ensemble Vocal de Nantes, et on se retrouve.
Radio Notre-Dame.
Thank you.
Un tédéum de Michel Richard de Lalande, le sien, par l'ensemble vocal de Nantes. On revient beaucoup plus loin à Moïse et à l'Exode. Avec vous, Joseph Davidovitz, et avec ce second volume, La Bible avait raison, donc sur les traces de Moïse et de l'Exode. Et en fait, cette façon que vous avez justement de croiser non seulement l'architecture, le travail de la pierre avec ce qui est vous, votre passion, vous le disiez tout à l'heure, pour ceux qui nous auraient rattrapé en cours de route, vous avez été déjà depuis 30 ans à la pointe sur ces recherches qui sont aujourd'hui on prend davantage conscience de l'écologie et oui, puis de savoir garder une planète un peu plus propre. Absolument. Mais vous, c'est quelque chose qui remonte, j'allais dire, avant les modes, là encore. Et au départ, on a dû vous considérer un peu comme un fou, non ?
Oh, toujours. J'ai toujours été un pionnier dans pas mal de choses, notamment en technologie, en archéologie, et là, en sciences bibliques.
Alors, je rappelle que votre base, c'est Saint-Quentin, et puis justement, cet institut des géopolymères. Et donc, ce travail, vous êtes l'un des rares à faire croiser, vous êtes un égyptologue reconnu, et à faire croiser la Bible et l'Égypte. Et en fait, on se rend bien compte très souvent que y a une ignorance voulue ou inconsciente et que on ne mélange pas. Et finalement, quand on voit l'histoire justement notamment des Hébreux dans le désert, il y a des éléments qu'on n'a pas pris en compte là encore.
Oui, on n'a pas pris en compte beaucoup de choses. Et en intégrant les connaissances modernes que nous avons développées en laboratoire, on va comprendre des tas de textes qui se trouvent décrits dans l'Exode, puis aussi dans le Deutéronome.
Alors, vous avez d'ailleurs un chapitre intitulé « Les forçats de l'agglomération », où vous reprenez ce chapitre premier de l'Exode, les versets 11 et 14. « Et l'on imposa à ce peuple des officiers de corvée pour l'accabler de labeur. Il bâtit pour Pharaon des villes d'approvisionnement, Pithom et Ramsès, et ensuite leur rendirent la vie amère par des travaux pénibles sur l'argile et la brique, par des corvées rurales, outre les labeurs qu'ils leur imposèrent tyranniquement. » Et de fait, il y a eu toute cette construction des villes.
Voilà. Et donc la construction des villes. C'est-à-dire qu'on utilise les Hébreux, en général, si on a le temps, on pourra sur la définition du mot hébreu, pour construire des villes. Ce ne sont pas de simples bergers, de simples paysans. Pour construire une ville, il faut des architectes, il faut des ingénieurs, il faut des maçons, il faut des charpentiers, il faut des gens qui sont extrêmement zélés dans les professions. Ce sont des professionnels. Et donc, ce passage s'adresse ou décrit des professionnels qui ont été obligés de quitter un état dans le sud, leur état normal, pour aller dans le nord. Ils ont été réquisitionnés pour faire ces travaux. Pourquoi est-ce qu'ils ont été réquisitionnés? Et c'est ça que l'on a découvert. C'est une succession de documents qui sont extrêmement bien référencés. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que lorsque l'on parle de ce peuple hébreu qui est soumis à ce genre de servage, il s'agit, un, d'artisans extrêmement qualifiés. Il ne s'agit pas de petits bergers, de sémites qui viennent de je ne sais pas où et qui ont séjourné en Égypte. Ce sont des artisans. Deux, ils sont dirigés par une classe dirigeante qui est dirigée elle-même par Moïse. Lorsque l'on a le verset dans lequel on entend Moïse ayant grandi, alla parmi ses frères et fut le témoin de leur souffrance, il aperçut un Égyptien frappant un Hébreu, un de ses frères. Oui. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas de la même couche sociale. L'Hébreu ne fait pas partie de la famille de Moïse. Cet Hébreu est un des artisans qui sont utilisés constamment en Égypte dans la réalisation des nécropoles funéraires royales de l'autre côté de Karnak, dans la vallée des rois. Les artisans qui se trouvent confinés dans un village à Deir el-Médiné, où ils n'ont pas le droit de sortir. Leur nombre a été jusque 1200 personnes vivant dans ce village extrêmement précis. Et l'on a alors, on découvre, lorsque l'on intègre toutes les données qui ont été les miennes à partir de l'historicité du patriarche Joseph, où on a Amenophis, fils de Hapou, on a un point d'ancrage, on va intégrer l'histoire de ces artisans dans ce village de Deir el-Médineh, et on va s'apercevoir de choses extraordinaires. Ces gens, à un moment, ont fait éclater la première grève de l'humanité. Oui. Ils se sont mis en grève. Au temps des pharaons, vers 1157 avant Jésus-Christ, ces artisans responsables de la réalisation de ces nécropoles dans la vallée des rois, la vallée des reines, se sont mis en grève parce que on ne leur livrait plus le grain qui était leur salaire. Ils se sont mis en grève et nous avons des textes. Et les textes sont extrêmement précis, ils ont été écrits par le scribe qui était chargé de l'époque, et ça a été extrêmement vite, que c'est une petite anecdote. Il a écrit le déroulement de ses grèves sur un papyrus dont il a lavé complètement une face, parce qu'il avait besoin de ce papyrus pour écrire. Et donc, ces gens sortent de ce village, manifestent, ce sont les premières grèves de l'histoire, elles sont référencées. Et dans le texte, on s'aperçoit que ces gens, les fonctionnaires égyptiens, les appellent ceux de la tombe secrète, parce que tout devait être secret, et c'est ceux de Hepher. Ce sont les qui Hepher. Hepher, c'est difficile à prononcer, et ça donne Hebrer. Ce sont les Hébreux, ce sont les artisans. Et ces artisans vont manifester. Il se trouve, et ça vous le trouverez dans mon livre, que Moïse est l'administrateur du grand temple funéraire d'Amenophis, fils de Hapou. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'Amenophis, fils de Hapou, c'est Joseph. Moïse est l'administrateur du temple funéraire du patriarche Joseph. Moïse, à un moment donné, autour de 1157, va se trouver mêlé à ces grèves. En fait, les grévistes sortent tous les jours et vont dans ces temples royaux, le temple Ramsès II, le temple de Ramsès II, le temple de Ramsès III, le temple d'Horenheb, et passent devant le temple d'Amenophis, fils de Hapou, le temple de Joseph. Et la rencontre entre Moïse va se faire à ce moment-là. Moïse est un personnage dont la fonction est extrêmement décrite et extrêmement bien précisée à partir du moment où on comprend le rôle de ce temple funéraire. Temple funéraire d'Amenophis, fils de Hapou, qui a été en activité pendant plus de 300 ans. C'était la référence de l'Égypte. Toute l'intelligentsia se reconnaissait dans ce temple, car c'était celui qui apportait la connaissance. Imaginez ce qu'étaient en Europe ou en France, au Moyen-Âge, les abbayes de Cîteaux, dans lesquelles on trouvait de tout. On trouvait des pharmaciens, on trouvait des médecins, on trouvait des clercs, on trouvait des scribes, on trouvait des moines, on trouvait tout le monde. Eh bien, le temple funéraire qui honorait le plus grand savant de l'Égypte, c'est-à-dire Joseph, était l'équivalent de l'abbaye de Cîteaux. Et Moïse en était le chef. Et nous avons la démonstration que Moïse en était le chef, et à partir de là, nous allons trouver pourquoi il y a eu l'Exode. Parce que ce temple représentait une façon de penser, une philosophie qui, à un moment, va déplaire au clergé d'Amon lorsque celui-ci va prendre le pouvoir juste après Ramsès XI. Et ce sera la cause de l'Exode. Ces gens seront interdits de pratiquer l'honorification d'Amenophis, fils de Hapou, et de Joseph à Karnak, et on va les déporter vers le Delta, où on leur demandera d'utiliser leurs connaissances pour construire les villes.
Alors, en appendice, il y a, alors c'est beaucoup aussi tout cela, parce que votre livre est truffé dans le texte d'illustrations, de cartes. C'est le travail de votre fils, Franck, qui vous accompagne, puisque vos deux fils sont tombés dans la marmite et...
Oh, ils sont obligés de suivre, bien sûr.
Je pense que s'ils n'avaient pas envie, ils seraient partis.
Absolument.
Ce qui prouve bien que... ça les intéresse. On retrouve justement les différentes phases des étapes, les grandes étapes de l'histoire des Hébreux. Et ça aussi, c'est très très passionnant. Mais je voudrais qu'on dise un mot de la construction du temple de Salomon, parce que c'est pareil. Il y a cette phrase. On est dans l'Exode au chapitre 20, dans la ville que Dieu choisira en ce pays, en un endroit commode et fertile que l'on nommera la ville sainte. On bâtira un seul temple dans lequel sera élevé un seul autel avec des pierres non taillées mais choisies avec tant de soin que lorsqu'elles seront jointes ensemble, elles ne cesseront pas d'être agréables à la vue. Et, voilà. Et on retrouve et toujours là, finalement ce thème.
Même le
j'allais
contre-sens
dire,
dans la traduction.
Voilà, alors il y a toujours ce parallèle entre pierre taillée, pierre non taillée.
Absolument. Ceux qui interprètent la Bible actuellement ne connaissent que l'usage de la pierre taillée dans la construction.
Et vous faites allusion notamment à Finkelstein, à Israël Finkelstein.
Donc obligatoirement, le texte ne peut se référer qu'à de la pierre taillée. C'est de la pierre taillée qui aura été taillée avec soin, on n'entendra pas ni marteau, ni outil lorsqu'on l'aura fait, alors que ce n'est pas de la pierre taillée, c'est de la pierre agglomérée. Et donc, à partir de ce concept, lorsqu'on remet ce concept, on reprend la traduction, et on retombe sur ses pattes, on retombe exactement sur le sens du texte hébreu. La Bible avait raison, le texte hébreu est correct, ce sont des interprétations qui sont fausses, mais qui sont fausses à plusieurs niveaux. Il y en a un autre où l'interprétation est fausse. Ouais. Le nombre de ceux qui participèrent à l'Exode, l'archéologie d'Israël, les recherches archéologiques faites par les archéologues israéliens ont démontré que dans les monts judéens, Jérusalem et au sud, entre Jérusalem et Hébron, il y a eu, au temps de l'arrivée de David, un accroît de population de 2500 personnes. Ça, il faut le croire, c'est scientifique. Ben, ça veut dire que l'Exode, il y a eu 2500 personnes et pas plus. Et ça correspond exactement au nombre de personnes qui sont impliquées dans la communauté qui était dirigée par Moïse. Et lorsque l'on a 600 personnes et non pas 600 000, ben, c'est parce que il y a une désinformation ou une mauvaise interprétation du mot mille, qui en hébreu est élef, mais qui a aussi un autre sens qui veut dire grande quantité. Dans la Septante, en grec, le mot mille, c'est chiliados qui a donné myriade. Les Grecs, en Septante, ils auraient dû écrire 60 myriades et non pas 600 mille. S'ils n'ont pas écrit 60 myriades, ça veut dire que c'est 600 personne, une grande quantité de la communauté était venue. Donc ces 600, lorsqu'on revient le texte, à partir de ce que donne l'archéologie, il faut croire à l'archéologie, mais il faut à partir de l'archéologie revenir au texte, avec un œil extrêmement critique, extrêmement ouvert, on retrouve que la Bible avait raison.
Ça, c'est votre leitmotiv, hein, Joseph Davidovits. Un mot sur Adam et Ève. Oh, il nous reste une minute. Vous revenez aussi en finale, justement, sur la création et notamment sur, on retrouve encore toujours ces références.
Voilà. Il y a quelque chose qui a alimenté la misogynie depuis plus de 2000 ans. C'est le fait d'avoir dans la création d'Adam faite à partir d'argile, et puis la création d'Ève faite à partir d'une côte d'os. Or, dans notre principe, si Adam est fait à partir d'argile, Ève est faite aussi à partir d'un autre minéral. Ce n'est pas de l'argile. L'argile est de couleur rouge. Ève est toujours représentée, la femme est toujours représentée en Égypte en une couleur très claire. Et nous pouvons démontrer que cette couleur, c'est de sable ou du calcaire. C'est-à-dire que Ève est faite en parallèle avec Adam. De la même façon, on fait intervenir des réactions minérales, c'est la façon dont ces gens expliquaient. Et il faut que le code génétique soit bien compatible entre les deux. Et il suffit d'une toute petite quantité d'os pour pouvoir faire que Ève soit la femme d'Adam.
Joseph Davidovits, un grand merci. La Bible avait raison, c'est le deuxième volume sur les traces de Moïse et de l'Exode chez Jean-Cyril Godefroy. C'est vendu 22 euros. On retrouve aussi une très abondante, grâce au fils ici présent, illustration et des cartes. Et en tout cas, ça n'est pas un roman, mais c'est beaucoup plus passionnant qu'un roman. Merci Joseph Davidovits. Et je rappelle l'Institut des géopolymères à Saint-Quentin et votre site internet www.davidovits.info.